Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Effectivement, réfléchir à ça.
Mais et on va, Julien, juste accueillir les téléspectateurs de CNews qui nous rejoignent. On est dans Punchline. Bonsoir à tous. Nos auditeurs sont déjà là d'Europe 1. On évoque la question de l'insécurité à Nice, dans le quartier des Moulins, puisque des fusillades se sont succédées cette semaine. La question que je posais à Julien Drey, que je viens d'interrompre, c'est est-ce qu'il faut envoyer l'armée ou pas, Julien?
J'essayais de vous répondre en disant l'armée, je ne sais pas bien, parce que je vois pas. C'est très compliqué. Mais par contre, la gendarmerie travaille déjà depuis un certain temps. On lui avait demandé déjà une dizaine d'années. Compris au moment où il y avait des tensions très fortes dans les quartiers. Et les gendarmes sont capables aujourd'hui d'investir un certain nombre de quartiers, d'être présents, parce qu'il y a une bataille rangée.
Quoi. Okay.
Et après, deuxième question qui est posée, hein, il ne faut pas se tromper. Ça, c'est les petites mains qui sont en train de s'affronter. Derrière, il y a des gros dealers. Tout l'aspect lutte contre la finance et les moyens financiers, parce que la plupart de ces chefs, les chefs de ces bandes-là, ils sont même pas là. Ils sont à l'étranger, c'est eux qui gèrent.
En attendant, les habitants sont vraiment excédés. Ils sont même résignés à partir. Je vous passe la parole dans un instant. On est avec Eugénie Bastier, Louis de Ragnel, Jean-Sébastien Ferjou et Céline Pina. On va écouter une mère de famille qui est très en colère dans ce quartier des Moulins à Nice et qui dit, voilà, il faut que les habitants se fassent justice eux-mêmes, qu'ils puissent reconquérir leur quartier eux-mêmes. Écoutez-la.
Moi, je vois un quartier qui vivait et qui se détruit. On voit des élus qui n'apportent rien. On voit des politiciens de tous bords qui n'apportent rien, uniquement quand il y a des élections. Et là, on veut voir vraiment du concret sur le terrain. On veut reconquérir, comme j'ai dit, notre territoire. Et notre territoire, c'est le quartier des Moulins.
Qu'est-ce que ça vous inspire, les opérations Place Nette?
C'est pas suffisant pour nous, c'est pas suffisant parce que en fait c'est déplacer le problème. Il y a des années j'ai déménagé du quartier et j'avais expliqué que c'était pas le béton qu'il fallait travailler mais les gens. Et en fait on en est arrivé à déplacer, à travailler du béton, pas travailler les gens, et on en arrive à ce qu'on a aujourd'hui.
Vous entendez cette mère de famille, Eugénie Bastier, qu'est-ce que vous lui dites?
Moi j'entends totalement sa détresse et je suis frappée du contraste entre. Effectivement, on a un président de la République qui dit on va envoyer peut-être des troupes en Ukraine, qui dit que la menace existentielle sur notre pays, c'est la menace russe. Je ne nie pas du tout la puissance de la menace russe et le danger que constitue Vladimir Poutine, mais le fait est que sur notre territoire et sur le territoire de la nation même, l'ordre ne règne pas et qu'il y a des territoires qui échappent à la loi et qui échappent à l'exercice de l'État.
D'accord.
Il me semble que
mais la solution, c'est l'armée,
je
dis.
Je pense qu'il ne doit pas y avoir de tabou et que on peut se poser la question dans les années qui viennent. Évidemment, il faudra que ce soit préparé. On ne peut pas décréter ça du jour au lendemain sans préparer, sans étudier effectivement à fond le problème. Mais légalement, ce serait possible. Je rappelle qu'il y a...
Légalement, je rappelle que
l'intervention de l'armée sur le territoire national
pour ouvrir
est
le
prévue.
Feu.
Non, l'intervention de l'État sur le territoire national est prévue par la loi selon plusieurs conditions. Si les moyens qui sont disposés à disposition sont insuffisants, inexistants, inadaptés ou indisponibles. On pourrait peut-être rentrer dans ce cas, notamment dans un cas de crise majeure, une crise des banlieues, j'en sais rien, mais en tout cas, je ne vois pas au nom de quoi il y aurait un nom a priori.
Un tabou autour.
C'est un vieux sapin de mer.
Samia Ghalil demandait pour Marseille il y a déjà 15 ans, je crois.
Rappelez-vous, la tribune des généraux dans Valeurs Actuelles qui avait fait débat, et Éric Zemmour en avait parlé dans un de ses listes, c'était un grand débat. C'est une question que l'on peut légitimement poser.
Louis Dragnel, et je vous passe la parole ensuite, Jean-Sébastien.
Moi, je pense que c'est une fausse bonne idée, mais il faut absolument y répondre. Pourquoi?
À quoi et comment?
Non, mais parce que la question, c'est pas celle des moyens. Les moyens, en réalité, on les a. Je sais que ça peut paraître absurde de le dire comme ça, mais les moyens, nous les avons. Le problème, c'est les consignes qui sont données aux policiers et aux gendarmes. Si la consigne est de dire aux policiers et aux gendarmes, on arrête de prendre en chasse des délits, des refus d'obtempérer. Surtout si les habitants sortent des armes, vous n'avez pas le droit de vous défendre. On est sûr de jamais gagner la guerre, que ce soit des policiers, des gendarmes ou alors même sentinelles ou des militaires. La question, c'est la question de l'emploi de la force. Donc si les consignes sont claires, il n'y a aucun problème. Et par exemple, Julien Drey parlait des gendarmes mobiles. Les gendarmes mobiles savent faire ça. Ils ont des blindés.
Oui.
En Outre-mer, c'est ce qu'ils font quasiment tout le temps. C'est leur mission.
Et donc, ce n'est pas désavouer les policiers
Le deuxième
pour vous
sujet.
C'est pas désavouer les policiers, Louis?
Bah non.
C'est-à-dire qu'ils ne savent pas faire le travail, donc on va envoyer les militaires à leur place?
Mais non, mais les gendarmes sont des militaires. Le deuxième sujet, vous mettez des militaires. Les militaires, eux, quand ils tirent, c'est pour tuer.
Bah c'est ce que
ils
je
ne
disais.
Savent pas faire d'un.
Oui,
enfin, ils
c'est
savent
ce
faire, mais leur métier, c'est pas de faire des interpellations, c'est pas d'utiliser des balles en caoutchouc. Ils n'ont pas d'armes de force intermédiaire. Et donc, en fait, on se retrouverait dans une situation, à mon avis, qui serait très préjudiciable aux militaires, puisqu'ils n'arriveraient pas, en fait, à exercer leur mission. Nous, ce qu'on veut, ce que veulent les habitants, c'est arrêter le chaos dans ces quartiers, interpeller les dealers, judiciariser, donc les mettre en prison, et rendre la tranquillité à toutes ces personnes. Et j'ajoute un deuxième sujet, qui, pour le coup, c'est pas la question de la police, de la gendarmerie, ou même de Sentinelle, ou de l'armée. C'est la question de la maîtrise de l'immigration. Et c'est pas un petit sujet quand vous voyez que le 2 février dernier, le Conseil d'État a mis fin au principe de non-admission. C'est-à-dire que concrètement, dans les Alpes-Maritimes, il y a 30 à 40 000 migrants qui chaque année sont été refoulés.
Alors, pour expliquer que Nice, effectivement, est sur le passage après la frontière italienne.
Exactement. 30 à 40 000 migrants qui étaient refoulés grâce au principe de ce qu'on appelle, je vais pas rentrer dans le détail, mais de la non-admission. Et le Conseil d'État, depuis le 2 février, empêche les autorités de pratiquer la non-admission. Conséquence, ces migrants, donc on ne peut pas les refouler, donc ils vont venir là et mécaniquement ils vont aller là où il y a tous les trafics, dont les trafics de drogue. Donc ça, c'est pas une question de police,
j'entends
ou de
Louis
gendarmerie,
Dragnet,
c'est une question
qui n'est pas
de
d'accord
responsabilité
avec le fait
politique.
Qu'on puisse envoyer l'armée dans les quartiers.
Alors, non, mais c'est très mauvais. Moi, je pense, mais comme le disait Dragnet, c'est une très mauvaise idée pour
fait deux sur
plusieurs
cinq.
Raisons.
Sur cinq.
Je ne parle pas d'une crise aiguë, comme d'ailleurs ce qui est prévu par la loi, mais d'une situation. Les militaires ne sont pas formés pour assurer du maintien de l'ordre.
Ils sont
formés
Sentinelle, effectivement pour. Sentinelle, c'est un dispositif qui existe depuis les attentats et qui est permanent quasiment. On le remet
mais
de temps
la
en temps.
Plupart des militaires.
Donc, ils servent déjà à faire du maintien de l'ordre de facto dans notre pays. Donc,
Non, mais ils sont formés pour pouvoir tirer dans le cas où il y a des terroristes. Où il y a des terroristes. Enfin, oui, mais là, on est dans une autre situation. Les militaires ne sont pas formés pour assurer du maintien de l'ordre. Les policiers ou les gendarmes le sont. Et au-delà de ça, ce serait un renoncement. D'une part, parce que la plupart des militaires eux-mêmes disent qu'ils ont déjà suffisamment de missions auxquelles faire face et des budgets qui ne leur permettent pas d'ailleurs d'y faire face. On ne va pas en plus leur demander d'assurer l'ordre intérieur quand ils sont censés, justement, encore plus dans un contexte géopolitique incertain pour la France, censés concentrer leurs moyens sur le fait de pouvoir éventuellement se projeter sur des théâtres d'opérations extérieures. Et c'est un vrai renoncement. Ce dont on a besoin, c'est simplement de policiers et de gendarmerie pour occuper le terrain dans ces quartiers-là, mais pas dans le sens de police de proximité pour, comme on l'a parfois entendu dire, au sens forcément d'assurer des relations avec les habitants, mais au sens de d'acter la présence de l'État dans ces quartiers-là, parce que aussi longtemps que l'ordre ne sera pas rétabli, ça ne sert à rien de lutter contre les trafics de drogue. On inverse la logique. Il faut d'abord rétablir l'ordre et derrière s'attaquer à la criminalité.
Céline Pina, après je sens que Julien n'est pas d'accord
en
avec
fait,
ce qui a été dit.
Qu'est-ce qu'on attend de l'armée ? Parce que effectivement, si c'est pour aller arrêter des petits voyous, les gens qu'on a vus sur ces images-là, la police peut très bien le faire. En revanche, si c'est pour tirer à balles réelles, là, effectivement, il vaut mieux que ce soit l'armée. On en est là ? Je n'ai pas l'impression. Imaginez que vous envoyez l'armée dans un endroit comme ça. Qu'est-ce qui va se passer ? Elle va peut-être réussir à arrêter un certain nombre de petits dealers, de petites mains, comme on dit. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont être lâchés tout de suite puisque la justice ne fait pas son travail. Qu'est-ce qui va se passer ? Il ne leur arrivera rien puisque aucun maire n'ose retirer des logements sociaux à des gens qui pourtant abusent des aides qu'on leur donne. Qu'est-ce qui va passer ? Puisque de toute façon, les mêmes qui couinent en permanence sur la situation qui est faite dans leur quartier se retrouvent souvent dans les marches blanches pour pleurer sur un gamin mort lors d'un refus d'obtempérer, ce qui peut se comprendre puisque ces gens vivent ensemble et que même devant quelqu'un dont on trouve qu'il a un comportement de voyou, on peut, parce qu'on a des liens avec lui, être touché et être bouleversé par sa mort. Mais on est dans un maelstrom de gens qui sont un petit peu perdus, de politiques qui ne prennent pas leurs responsabilités, d'une justice qui n'a pas les codes et qui ne sait pas comment répondre à ces nouvelles atteintes. Et ce n'est pas l'armée qui changera quoi que ce soit, parce que de toute façon, c'est la chaîne entière qui est défaillante.
Je suis assez d'accord. Julien Drey, qu'est-ce qui vous a choqué dans ce qu'a dit Louis ?
Non, le problème, c'est que c'est pas vrai qu'on a les moyens. Parce qu'on ne fait que des incursions dans ces quartiers. On n'a pas de force présente en permanence au quotidien dans ces quartiers-là. Je les connais bien, oui. J'y vais souvent. Voilà. Donc vous avez effectivement des bacs qui rentrent à un moment donné, vous avez de la police qui patrouille, etc. Là, le problème, c'est qu'il faut arriver à casser la structure telle qu'elle s'installe dans le quartier, c'est-à-dire la tutelle d'un certain nombre de dealers qui ont les réseaux, ont les guetteurs, savent passer par les caves, savent cacher ce qu'il faut, etc. Donc il faut un quadrillage du quartier. L'armée ne sait pas faire ça, il faut être honnête. La gendarmerie sait le faire. Oui. Parce qu'elle sait faire, d'un point de vue statique, une présence sur le terrain. Donc ces quartiers-là, ils ne doivent pas être envahis par la gendarmerie. Mais il doit y avoir des régiments de gendarmerie qui viennent et qui, par ailleurs, parce que c'est ça la question qui est posée, rassurent la population. Parce qu'il y a toute une partie de la population qui a beaucoup de détails. Mais quand il n'y a pas les policiers qui sont là pour la protéger au quotidien, toutes les heures, elle ne donne pas les détails. Parce que quand la police s'en va, elle a peur de se faire attaquer. Voilà. Donc c'est...
On dit la même chose,
je crois. Oui.
Non, parce que vous pensiez que tout était en état bien.
Je n'ai jamais dit que la situation était très bonne. La seule question qui compte, c'est quelle est la volonté politique. Est-ce qu'ils sont prêts à prendre des risques? Parce que l'absence de risque fait qu'on va dire aux policiers, bon, vous allez terroriser un petit peu, vous passez dans le quartier, vous faites trois interpellations, et en fait, ça ne terrorise personne, et ça fait surtout grandement paniquer les habitants qui se disent, ah ben, il y a les policiers qui viennent un jour, le lendemain, ils sont plus là, on sait plus.
Le sujet, c'est je suis d'accord, c'est vraiment la détermination politique, parce qu'il y a quand même un énorme tabou, c'est-à-dire que la police ou les gendarmes, quand ils interviennent dans ces quartiers-là, sont tétanisés à l'idée qu'il y ait un incident. Donc, évidemment que personne ne souhaite qu'il y ait des morts, que la police en vienne.
Mais si par principe, les policiers et les gendarmes se disent qu'ils n'utiliseront pas leur arme,
je constate quand même que quand il s'agissait des gilets jaunes, il y avait... parce que cela n'avait pas la même sociologie, il y avait un peu moins de réticence ou un peu moins d'hésitation de la puissance publique à tirer dans le tas, pour le dire. Et on se souvient de certaines stratégies de maintien de l'ordre qui délibérément, en quelque sorte, créaient des heurts. Donc oui, il y a un énorme tabou. On a peur, effectivement, que ça dégénère parce qu'on a peur d'être accusé de racisme.
Allez, on va avancer. Julien n'est pas d'accord, mais parce qu'on avance, Julien.
Le problème, c'est... la force numérique que vous mettez sur le terrain, c'est pas un problème d'aller tirer au flashball, etc. Quand vous avez, parce que je l'ai vécu en tant qu'élu, quand vous avez une présence permanente, c'est ce qui se passe d'ailleurs quand il y a eu les émeutes, on faisait venir à ce moment-là les compagnies de CRS qui étaient là, à ce moment-là tout se calmait. Mais quand elles partaient, tout recommençait comme avant.
Mais les deux ne s'opposent pas.
Allez, j'aimerais bien qu'on évoque maintenant le risque attentat, parce que je parlais des menaces, des nombreuses menaces qui pèsent sur notre pays. Celle du terrorisme, évidemment, est majeure. 323 menaces d'attentat ont visé des lycées partout en France depuis une semaine, avec des interpellations ici ou là. Mais quelles sont les suites, réellement? On parlait de l'efficacité de la justice. Quelles sont les sanctions pénales qui sont possibles? On voit juste ça avec Noémie Schuss et je vous passe la parole.
Ce mineur de 17 ans a été interpellé à Malakoff dans les Hauts-de-Seine par les policiers de l'Office de lutte anti-cybercriminalité. Il a été placé en garde à vue. Une première arrestation alors que depuis une dizaine de jours, des établissements partout en France sont la cible de menaces via les ENT, les espaces numériques de travail. 323 menaces dans 44 départements ont ainsi été comptabilisées par le ministère de l'Éducation nationale. À Paris, trois enquêtes ont été ouvertes. D'abord, pour atteinte à un système de traitement automatisé de données mis en œuvre par l'État, délit faisant encourir 7 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Mais aussi pour menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public, jusqu'à 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende. Apologie du terrorisme au moyen d'un service de communication au public en ligne et provocation à un acte de terrorisme, 7 ans de prison, 100 000 euros d'amende, usurpation d'identité, divulgation d'informations fausses afin de faire croire à une destruction dangereuse, là encore un délit faisant encourir 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende.
Alors Céline Pina, pour reprendre vos arguments, on verra ce que ça donnera, les condamnations ou pas, de ces individus qui menacent d'attentat les lycées en France.
Mais force est de constater que on parle toujours du maximum de ce que l'on peut donner, mais force est de constater que les magistrats appliquent les lois avec tact et mesure. C'est exactement le cas inverse des dépassements d'honoraires. Et là, je pense qu'il faut quand même vraiment changer de manière de faire.
De braquet.
Parce que si un gamin qui commet un acte comme ça, se retrouve avec 50 000 euros d'amende ou 30 000 euros d'amende à payer par les enfants, par les parents ou par lui. Il faut regarder quelle est la structure. Mais en fait, il faut que l'amende pèse sur la vie de la famille et pèse pour un certain nombre d'années. Et que ça soit su, que la publicité soit faite, parce que le but du jeu, c'est que les gens arrêtent ce genre de débilité. Et jusqu'à présent, comme on pouvait faire n'importe quoi et qu'on ne payait jamais sa dette, là, je pense qu'il faut arrêter parce qu'en fait, ça coûte ce dont on ne se rend pas compte. C'est ce genre de jeu coûte un argent incroyable à l'État pour faire passer les démineurs, pour regarder...
Oui, il y a des lycées qui ont été évacués. Ce n'est pas un jeu, en fait.
Non, ça terrorise les gens. Ça a des impacts extrêmement lourds. Et en plus, étant donné le contenu des menaces, ça veut dire quand même qu'il faudrait aussi s'intéresser à l'état mental de ce jeune homme. Parce que même s'il ne fait que jouer avec la menace terroriste, c'est pas normal à 17 ans de trouver le terrorisme amusant.
Absolument. Eugénie Massier ?
Vous êtes d'accord? Oui, évidemment, bien sûr. Et on pense aux Jeux Olympiques qui arrivent bientôt et des événements qui vont se tenir et qui sont susceptibles d'être annulés suite à des menaces. On se demande bien comment l'État va avoir les moyens d'empêcher ça. Et c'est le problème de la guerre contre le terrorisme, qui est une... Le terrorisme a pour objectif de créer un état de sidération et de vigilance permanente dans la société et de la part des gouvernements. Et à cette menace terroriste qui existe maintenant depuis à peu près une vingtaine d'années en Occident, s'ajoute la dimension cyber qui aujourd'hui abolit même le virtuel et le réel et qui crée une couche supplémentaire de possibilité de terroriser. J'imagine évidemment que les élèves qui ont cliqué dans leur mail, dans leur NT, qui sont tombés sur des images, ça veut dire que plus personne n'est à l'abri, on est même en restant chez soi dans sa chambre devant son ordinateur, on est susceptible de se retrouver face à des images terroristes. Et c'est absolument un défi colossal pour nos démocraties.
Julien Drey, il faut interpeller, sanctionner.
Il y a deux choses différentes. Moi, je pense que les sanctions financières, ça se discute, parce que si c'est pour pénaliser une famille qui n'a pas de moyens, que les autres... Par contre, je pense que c'est des jeunes qui doivent être dans des sorties de leur milieu, c'est-à-dire qu'ils doivent être dans des centres d'éducation.
Il y en a très peu, Julien. Il n'y a pas de place.
C'est ça qu'il faut. Il faut ouvrir les centres d'éducation, il faut les reprendre en main, et de manière pas simplement conjoncturelle par une sanction, parce qu'il y a tout un travail à faire de rééducation. Et si vous les laissez dans leur milieu, d'abord, vous risquez de pénaliser les frères et les sœurs qui eux travaillent bien. Mais voilà, donc ceux-là, il faut les prendre en main. Et la pénurie aujourd'hui de place dans ces centres d'éducation renforcés, elle crée cette situation ubuesque où vous avez des sanctions qui ne sont même pas appliquées d'ailleurs le plus souvent, etc. Bon, après, il y a un autre débat qui n'est pas de la même nature. On est en train de découvrir qu'il y a toute une réorganisation des réseaux terroristes qui s'est mise en place ces deux dernières années. Et peut-être, je ne pense pas que nos services aient sous-estimé, mais malheureusement, la pieuvre, elle est multiple et très grosse réorganisation qui s'est mise en place et qui est évidemment un péril maintenant pour l'ensemble des démocraties.
Et on en a vu un exemple à Moscou, effectivement. Jean-Sébastien Ferjou, avant Louis Dragnel.
Je comprends ce que dit Julien Drey sur les cas les plus graves, mais si on raisonne d'un point de vue réaliste, ça peut être tout le monde, hein. Les gens qui écrivent des menaces, on l'a vu dans les procès, ça peut être vraiment monsieur et madame tout le monde, y compris des gens très socialement intégrés. Donc ça ne va pas avoir que des jeunes, parce que parfois ce sont des majeurs, qu'on irait mettre dans des centres d'éducation. Et comme vous l'avez souligné, on n'en a pas les moyens. Mais comme le disait Jacques Lacan, le réel, c'est quand on se cogne. Et effectivement, et Jenny l'a souligné, il y a un problème de gens qui perdent le contact avec le réel, parce qu'il y a une forme de nihilisme qui s'est mise en place, une forme de virtualisation du monde. Et il faut effectivement revenir à la certitude de la sanction, alors qu'il puisse passer, pourquoi pas, par le placement, mais en tout cas par la certitude de la sanction et qui intervienne vite, parce que sinon, effectivement, on a une génération qui est en train de perdre le réel, tout milieu confondu.
Louis de Ragnel, la menace du terrorisme, elle terrifie nos gouvernants, et a raison. Il y a une réunion qui s'est tenue aujourd'hui avec Gérald Darmanin et la DGSI. Quel était le but de cette réunion, Louis ?
C'est Céline Berton, la nouvelle patronne de la DGSI. L'objectif de cette réunion, c'était de faire un briefing au ministre de l'Intérieur sur l'état de la menace à l'issue de l'attentat qui s'est produit à Moscou. Et donc la décision qui a été prise, c'est de réorienter un certain nombre de capteurs de la DGSI vers tous les ressortissants ou les gens qui ont des liens avec des gens d'origine, par exemple, kirghize, des pays d'Asie centrale, le Kyrgyzstan, le Kazakhstan, le Turkménistan, puisque la crainte du renseignement intérieur, c'est non pas qu'il y ait des commandos projetés qui viennent de l'étranger, mais l'activation à distance de personnes qui habitent déjà sur le territoire national. Et la crainte est extrêmement élevée, à tel point que plusieurs sources à la DGSI, qui ont préparé cette réunion, nous expliquent qu'il y a des mots qui ont été employés.
Selon les informations d'Europe 1, effectivement.
Voilà, selon les informations d'Europe 1, des mots comme il faut se préparer à la possibilité de tuerie de masse, le retour des attaques terroristes de haute intensité, et avec en ligne de mire, ce qui inquiète
le plus, la cérémonie d'ouverture
des Jeux Olympiques, où il y a eu beaucoup de menaces qui ont été interceptées, et venant précisément de cette communauté. Donc il y a eu, une augmentation des menaces interceptées depuis l'attentat qui a été commis à Moscou. Donc voilà.
Il y a une possibilité qu'elle soit annulée, cette cérémonie d'ouverture ?
Ça dépend en fait de la volonté du président de la République.
Ailleurs.
C'est le président de la République qui peut décider.
Si le risque est trop grand.
C'est une décision politique. C'est ni la patronne de la DGSI, ni le ministre de l'Intérieur qui peut décider de ça. C'est le président de la République. On sait que depuis le début, il a maintenu envers et contre tout cette cérémonie d'ouverture sur la scène parce qu'il le souhaite. Est-ce qu'il écoutera les lignées du renseignement et les...
Bien sûr.
On se demande où c'est écrit.
Et on a appris que la Pologne et des soldats étrangers viendront à Paris sécurisés pendant les JO. Eugénie Bastier,
non, mais on a l'impression que ce qui va se passer, c'est un peu comme les JO du Japon il y a 4 ans pendant le Covid, où il y avait finalement une bulle sanitaire qui s'était construite autour de ces JO qu'on a quand même maintenue, mais dans une bulle sanitaire extrêmement poussée. Eh bien, là, ce sera un peu la même chose, mais dans une bulle sécuritaire. Ils ne seront évidemment pas annulés, rien ne sera annulé, mais avec des conditions de sécurité telles que ça va être extrêmement déplaisant en réalité pour beaucoup de gens.
Tu viendrais ?
Non, la question qui est posée sur la cérémonie d'ouverture, c'est de savoir s'il ne faut pas la reformater.
Oui.
La reformater parce qu'elle va être trop longue. Donc c'est très dur. C'est quelque chose qui dure 3-4 heures. Bon, ça devient une tension terrible pour les services. Je ne suis pas convaincu qu'on ait besoin d'avoir toutes les délégations avec les drapeaux. Voilà, on peut avoir une très belle cérémonie d'ouverture qui dure 1h30, 2h. C'est largement suffisant et ça évitera la tension que va générer à ce moment-là les choses. Après, ce sont souvent des sites fermés, donc tout ça va être très contrôlé, etc. C'est bien qu'il y ait une coopération européenne et que les services européens viennent, vu le danger dans lequel on est aujourd'hui.
Absolument. Allez, on va faire le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h35. Simon Guillain est là pour CNews et Europe 1. Simon.
Le Haut-Vernay revit la disparition du petit Émile pour tenter de percer le mystère. Sa famille, des voisins et des témoins sont réunis sur place pour une mise en situation. Au total, 17 personnes ont été convoquées par la justice pour reconstituer le moment où l'enfant de 2 ans et demi a disparu. C'était le 8 juillet dernier. Aux États-Unis, les corps de 2 des 6 personnes disparues ont été retrouvés aujourd'hui à Baltimore. Ils étaient prisonniers de leur véhicule à plus de 7 mètres de profondeur. Il faudra désormais retirer les importants débris du pont effondré pour que les plongeurs puissent poursuivre les recherches sur place. Et puis près d'une semaine après l'attentat de Moscou qui a fait 143 morts, les enquêteurs russes affirment que les auteurs de l'attaque avaient des liens avec les nationalistes ukrainiens. De son côté, Kiev dément toute implication dans ce massacre, Laurence.
Merci beaucoup Simon Guillain. On va faire une petite pause. On va continuer à débattre de la menace terroriste qui plane sur la France à la lumière de ce qui s'est passé à Moscou. Notre invité sera Anne Niva, grand reporter qui rentre de Russie. À tout de suite dans Punchline. – 18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Anne Niva nous a rejoint. Bonsoir Anne, vous êtes grand reporter. Vous publiez ce livre « La haine et le déni » avec les Ukrainiens et les Russes dans la guerre aux éditions Flammarion. Un livre de reportage où vous alternez les passages en Russie et en Ukraine. Et c'est vraiment votre métier de grand reporter. On a évoqué il y a quelques instants, avant que vous n'arriviez, la menace terroriste à la lumière, bien sûr, de l'attentat de Moscou et la grande crainte des autorités françaises que un commando puisse perpétrer un massacre, une tuerie de masse, comme le disait il y a un instant Louis de Ragnel, sur le sol français à l'approche des Jeux Olympiques. Le fait que cet attentat ait pu se produire à Moscou prouve que rien n'est à écarter en réalité, que cette menace terroriste est omniprésente partout, y compris en Russie.
Bien évidemment que la menace terroriste est présente absolument partout. C'est que les médias se réveillent aujourd'hui pour en parler. Moi, ça fait 30 ans que je pratique le reportage. Mmh. Avant d'être dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, j'ai couvert la guerre en Irak, j'ai couvert la guerre en Afghanistan. Je peux vous dire que quand je rentrais et j'avais eu du mal à vendre mes reportages parce que ça intéressait beaucoup moins finalement que la guerre en Ukraine. Donc, bien sûr que le risque terroriste, on vient de le voir avec ce qui s'est passé à Moscou, est présent. On est monté à 143 morts aujourd'hui et il y a encore beaucoup de questions qui restent sans réponse. En tout cas, on voit bien que en Russie, même si le Kremlin souligne la version ukrainienne, il y a quand même beaucoup de Russes qui pense qu'il s'agit d'un attentat terroriste parce que moi-même j'ai vécu en Russie 10 ans et le risque terroriste, il y a eu énormément d'attentats terroristes dans les 20 dernières années en Russie. Mmh. Et celui, l'un des plus récents entre guillemets, il y a à peine 10 ans, c'était quand même plus de 35 morts à Saint-Pétersbourg dans le métro. Donc tout ça pour les Russes, ça n'est pas original. C'est quelque chose qui leur fait peur.
Comme nous, malheureusement, en France.
Mais la guerre en Ukraine aussi est dans le quotidien des Russes depuis 2 ans. Donc il y a un amalgame, forcément, aujourd'hui, dans la tête des Russes. Personne ne sait si c'est véritablement, si c'est les Ukrainiens ou si c'est l'État islamique, branche du Khorasan. Personne ne sait.
Julien Drey, ça veut dire aussi que cet attentat qui s'est produit à Moscou prouve les failles du système Poutine, à vos yeux, ou pas ?
On ne va pas leur jeter la pierre. On a été confrontés, nous aussi, à la menace terroriste. Elle a été terrible. Et pourtant, on avait des services qui étaient plutôt compétents. Donc, c'est trop facile de dire, vous voyez, c'est la faille du système, la faillite du système, etc. Par contre, ce que je pense, c'est que M. Poutine a cru qu'il allait s'acheter une conduite avec les forces islamistes. Et il l'a cru depuis le 7 octobre. Et il est rattrapé par ça parce qu'en Russie, il y a des forces islamistes depuis très longtemps dans le Caucase. Et le combat pour l'installation d'un califat, il est partout, y compris en Russie. Et c'est un réveil difficile pour lui.
Il avait pactisé pour vous avec ces organisations terroristes.
Il a reçu il y a moins de 15 jours, il a reçu le Hamas en grande pompe. Voilà, donc il pensait que sur ce flanc-là, les choses étaient en train de s'apaiser, notamment après l'intervention de la Russie en Syrie contre Daesh, qui a joué un rôle
considérable. Oui, enfin, la branche d'État islamique en question a attaqué l'Iran. Donc il y a quand même des différences. L'État islamique au Khorasan a fait un attentat en Iran.
En janvier,
l'Iran soutient le Hamas. Enfin, on voit bien qu'il y a des. C'est un peu. Il y a aussi au sein même du monde musulman des guerres terroristes.
Non, mais si vous voulez, ça pose quand même un problème à Vladimir Poutine, cet attentat. Parce que qui sont les hommes qui vont combattre sur le front ukrainien aujourd'hui en venant de la Fédération de Russie? Ce sont essentiellement des non-russes, c'est-à-dire détenteurs du passeport de la Fédération de Russie, mais qui viennent de républiques non ethniquement russes, voilà, comme la Bouriatie, le Daghestan, le Tatarstan, etc. Donc il lui est difficile aujourd'hui à Vladimir Poutine, parce que là, pour le moment, sa priorité, c'est de calmer l'opinion publique, parce qu'évidemment, il y a tout le monde a très peur.
Une grande colère des Russes ou pas?
Oui, absolument. Et depuis vendredi, il y a évidemment un racisme anti-tadjik, puisque les quatre personnes arrêtées qui ont été montrées sont ressortissants du Tadjikistan. Bon, ce racisme et cette xénophobie existaient déjà. Mais là, ce que je veux dire, c'est que ça prend une nouvelle ampleur. Donc, tous les chauffeurs de taxi à Moscou sont originaires du Tadjikistan, d'Ouzbékistan, etc. Donc aujourd'hui, les Russes ne veulent plus les prendre. Donc, c'est quand même compliqué pour Vladimir Poutine, parce qu'il ne souhaite pas déclarer une seconde vague de mobilisation. Et il sait très bien que la plupart de ceux qui vont en Ukraine combattre en Ukraine sont issus de ces républiques. Et il y a quand même 20% de la population en Russie qui est musulmane. Donc il doit tenir compte de tout cela, et c'est un équilibre fragile.
Alors j'aimerais juste qu'on écoute la Russie, la porte-parole du comité d'enquête russe qui s'est exprimée aujourd'hui à propos de l'attentat de Moscou et qui continue à cibler l'Ukraine encore et toujours, alors que l'État islamique a revendiqué par deux fois l'attentat de Moscou. On l'écoute, elle s'appelle Svetlana Petrenko.
Après avoir travaillé avec les terroristes détenus, examiné les dispositifs techniques saisis et analysé les informations sur les transactions financières, des preuves de leur lien avec les nationalistes ukrainiens ont été obtenues. L'enquête a permis de confirmer des données selon lesquelles les auteurs de l'attaque terroriste ont reçu depuis l'Ukraine d'importantes sommes d'argent et des crypto-monnaies qui ont été utilisés pour préparer le crime.
Voilà pour ce que disent les officiels russes. C'est de la cécité, c'est de la stratégie, c'est quoi, Anne-Kima?
C'est la doxa, c'est-à-dire elle ne peut rien dire d'autre, puisque Vladimir Poutine, c'est lui qui donne le là, et c'est lui qui a quand même attendu 19 heures avant de parler. Hein, il a parlé samedi.
Après l'attentat, oui.
Voilà, après l'attentat. Et il continue à souligner le récit qui est celui en cours aujourd'hui au Kremlin, qui est de dire que la Russie est face à une menace existentielle et même face à une double menace. C'est ce que dit le Kremlin. Donc la double menace, c'est bien sûr celle des nazis, entre guillemets, d'Ukraine, et c'est celle de cet islamisme, de ce terrorisme islamique. Donc là, Vladimir Poutine, il marche sur des œufs, puisque justement, pour les raisons que j'ai évoquées, il a besoin de personnes pour continuer à faire cette guerre. Et en même temps, il faut qu'il ménage cette population qui existe à l'intérieur de la Russie, qui travaille sur les chantiers, qui est très importante économiquement pour la Russie. Mm-hmm. Et il le répète tout le temps, Vladimir Poutine. Il dit que la Russie est un État multinational. Et en cela, il a absolument raison. C'est-à-dire qu'en Russie, vous avez énormément de différentes nationalités. Il n'y a pas que la nationalité russe.
Bien sûr. Céline Pina, qu'est-ce que ça vous inspire?
Rappelez-vous, après le 7 octobre, ce qui se passe au Daghestan, notamment sur l'aéroport, où vous avez des dizaines et des dizaines de personnes qui veulent se faire, entre guillemets, tuer les passagers d'un avion qui est censé arriver de Tel Aviv. Donc là, on voit quand même que la situation est extrêmement tendue, puisqu'il suffit d'une étincelle ailleurs pour
ça
provoquer.
Ça fait très peur, ça.
Voilà, et ça a terrorisé tout le monde. Le deuxième point qu'on oublie, c'est la façon dont, pas seulement Poutine, mais les anciennes républiques soviétiques ont utilisé le nazisme. En fait, on a de la propagande sur le nazisme qui va durer quasiment jusqu'aux années 2000. Donc ce qui nous paraît à nous daté des années 50, à eux c'est encore extrêmement frais. Troisièmement, on est chez un dictateur, donc il n'en a rien à faire de la vérité, il n'a même pas à avoir un rapport avec. En revanche, il est dans le narratif. Et dans le narratif, pour que quelqu'un vous entende, il faut que tout cela se place dans un fond d'écran qui est déjà en place. Et le fond d'écran en place, c'est la guerre avec l'Ukraine. Et comme il ne peut pas vraiment s'attaquer directement à l'islamisme, eh ben, en politique, on détourne le tir, on triangule pour retrouver l'adversaire qu'on sait combattre, parce que l'autre, en fait, on ne sait pas ce qu'on va en faire.
D'où viendrait la nazification ? Poutine l'a commencé, on l'a vu aussi en marche sur le 7 octobre.
Il faut quand même comprendre ce que c'est que la Russie, ce qu'a été l'Union soviétique. La Grande Guerre, ce n'est pas rien pour les Russes. C'est des millions et des millions de morts, c'est des sacrifices terribles. Et il n'y a pas une famille russe qui n'a pas perdu un ou deux enfants. Donc c'est une histoire qui s'est racontée, qu'on ne peut pas gommer comme ça, et ce n'est pas que de la propagande. Et d'ailleurs, c'est le peuple russe qui gagne la bataille, ce n'est pas Staline. Parce que Staline, au départ, il n'a rien compris. Il s'était même allié à Hitler. Donc c'est une mobilisation sans précédent. Donc il y a une fierté russe dans cette guerre qui reste, qui est permanente, et qui ne s'efface pas du jour au lendemain. Donc après, il en joue, effectivement, parce qu'il sait bien que ce sentiment est présent dans la population russe telle qu'elle est. Moi, mon sentiment, c'est que, connaissant un peu les staliniens et les nouveaux staliniens, je pense qu'ils sont en train de tout revisiter. Voilà. Alors, c'est toujours la même chose, hein. Ça tourne très vite dans ces cas-là. Donc, dans un premier temps, on a l'impression que rien ne bouge, et puis d'un coup, il va y avoir des pioches, des machins, et ils vont tourner.
J'aimerais évoquer avec Anne Niva aussi la position française par rapport au soutien à l'Ukraine. On va écouter Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui a été très clair à l'occasion d'un point sur le soutien à l'Ukraine. Il estime que la Russie est une menace pour nous, Français. Écoutez-le.
La réalité, c'est que la Russie représente une menace pour nous. Pour l'Ukraine, c'est une évidence, mais une menace pour nous, ça devient de plus en plus une évidence. On voit bien que le comportement de la Fédération de Russie n'est pas le même qu'il y a 2 ans, au début de la guerre. J'ai rendu public un certain nombre d'interactions particulièrement agressives des forces armées russes à l'égard des forces armées françaises, des attaques cyber, certes, mais attaques quand même, de plus en plus dures, de plus en plus violentes, tant sur des infrastructures cyber militaires que civiles. Militaires, elles sont largement repoussées, mais les infrastructures civiles peuvent être plus fragiles.
Voilà pour Sébastien Lecornu. Anne Niva, il a aussi dit qu'il allait sans doute donner des ordres de réquisition pour certaines usines d'armement.
Oui, enfin, ça, c'est pas encore fait. Enfin, quand Sébastien Lecornu dit que la Russie a changé d'attitude depuis 2 ans, certes, mais la France aussi a changé d'attitude depuis 2 ans, parce que moi, je me souviens que Emmanuel Macron ne tenait pas le discours qu'il tient aujourd'hui en 2024, pendant toute l'année 2022, puisqu'il a parlé encore après l'été 2022, il soulignait le fait qu'il fallait continuer à dialoguer avec la Russie et qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Aujourd'hui, il tient un autre discours. Bon, mais tout ça, c'est de la politique. Moi, justement, dans mon livre, je ne traite pas de politique, je traite de l'humain. Et ce que je voudrais dire, qui me semble intéressant, c'est que la population russe, à qui j'ai parlé, puisque je parle russe, et que même si les Russes ont du mal à s'exprimer publiquement, parce qu'ils peuvent, s'ils s'expriment anti-guerre, se retrouver en prison, à quelqu'un qui parle leur langue et qui leur assure la discrétion, ils parlent.
Donc, et qu'est-ce qu'ils disent,
Anne ? Eh bien, il y a des Russes pro-guerre et pro-Poutine, on sait ce qu'ils disent, mais il y a aussi des Russes anti-guerre et anti-Poutine. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est le niveau de patriotisme des uns et des autres. Et en fait, il est le même. Il y a un immense niveau de patriotisme, même chez les Russes anti-Poutine et anti-guerre, parce que quand je leur demande comment ils voient la fin de cette guerre, est-ce qu'ils envisagent une victoire de l'Ukraine, eh bien, même eux n'arrivent pas à me le dire, c'est-à-dire à l'envisager. Voilà. Donc, pour le moment, cette guerre militairement, n'est pas gagnée ni d'un côté ni dans l'autre. On est dans une guerre d'attrition. Et c'est pour ça qu'elle va durer longtemps, que les Russes, que Poutine prépare sa population, et que de l'autre côté, côté ukrainien, où j'ai également énormément parlé à tout le monde, et où il y a aussi des avis qui ne sont pas toujours les mêmes, bien sûr, parce qu'il y a une différence entre l'avant et l'arrière, comme dans toutes les guerres, eh bien, il est aussi de bonne guerre, si je puis dire, que du côté de Volodymyr Zelensky, on essaye de continuer à avoir cette aide. Mais beaucoup d'Ukrainiens trouvent qu'on les a lâché dès le départ. J'ai un ancien officier du renseignement ukrainien qui me disait dès 22, vous nous avez pas assez, vous nous avez laissé tomber. Donc ça, il faut l'entendre aussi, même si ça fait pas plaisir à entendre.
Bien sûr. Eugénie Bastier, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, il y a un écrivain qui a écrit un livre qui s'appelait Z comme zombie, où il parlait de l'opinion russe, la manière dont elle était formatée par la propagande qui est entre les mains de l'État en Russie. Est-ce que vous avez eu le sentiment de ressentir ça, c'est le poids de cette propagande publique, médiatique, sur les Russes qui sont, alors lui il disait qu'ils étaient carrément devenus des zombies. Est-ce que c'est ce que...
Oui, non, mais bien sûr, ça dépend de quel Russe, ça dépend aussi de la classe d'âge, bien sûr, parce que la Fédération de Russie reste le premier pays le plus grand du monde, 11 fuseaux horaires, donc il y a les télévisions d'État qui, évidemment, sont beaucoup regardées par des personnes de 50 ans et plus. Tandis que les plus jeunes, regardent, sont sur Internet, sont sur les chaînes Telegram, ils s'informent, mais il faut le vouloir. Il faut mettre un VPN sur son téléphone, parce qu'il y a des sites qui sont censurés. YouTube n'est pas encore censuré en Russie, donc c'est un effort quand même pour vouloir s'informer. Donc, bien sûr que cette propagande existe, mais comme on l'a dit sur ce plateau, elle n'existe pas que depuis cette guerre. Elle existe depuis très longtemps. Le narratif sur le poids de l'histoire en Russie et l'importance de cette fameuse grande guerre patriotique, qui est la façon dont on appelle en Russie la Seconde Guerre mondiale, c'est évidemment pas du tout la même vision.
C'est pas le même que le nôtre. Jean-Sébastien Ferjou, un dernier mot.
Une question, oui, pour Anniva. Ces Russes à qui vous parlez, justement, il y a le patriotisme vis-à-vis de la Russie, mais si on raisonne en bloc, est-ce qu'ils se sentent faire partie un peu plus d'un monde occidental ou d'un monde blanc, pour le dire autrement, ou alors de cette nouvelle coalition de régimes autoritaires avec la Chine et l'Iran ? Où est-ce qu'ils se sentent
Ils se sentent quand même encore faisant partie du monde occidental et notamment européen. Mais là, je parle des élites, des élites économiques, des élites intellectuelles qui dont beaucoup ne peuvent plus venir ici. Et donc, ça leur coûte mentalement de ne plus pouvoir venir. On sent que ça les fait souffrir. Il y a cette histoire des sanctions, bien sûr. Donc, ils se sentent encore complètement partie de ce monde européen, de ce monde occidental. Mais en même temps, on voit bien que les alliances politiques internationales de la Russie sont en train de changer. Et toutes les sanctions sont contournées. Si on peut encore aujourd'hui s'acheter, je ne sais pas, une Porsche ou une Ferrari quand on habite Moscou, c'est parce qu'elles arrivent dans un pays tiers. Un pays tiers comme l'Azerbaïdjan, comme l'Ouzbékistan ou d'autres. C'est-à-dire, comme avec l'Iran, bien sûr, n'importe quel État sanctionné s'adapte.
Donc,
contourne les sanctions.
Pas de solution à court terme entre la Russie et l'Ukraine.
Non, pas de solution à court terme.
Garde d'accession qui va durer des mois. Et avec les Européens qui tentent d'envoyer de l'armement en achetant dans le monde
entier. Et les Russes attendent beaucoup les élections américaines. Donc,
pour savoir si Donald Trump est élu ou pas.
Sera capable de trouver une solution à ce problème. Bon. Mais beaucoup en doutent quand même.
Et, si vous permettez, je vous fais une
remarque. C'est la fin de l'émission, Julien. 10 secondes.
Ça m'énerve dans le positionnement de la France. Parce que quand un ministre des armées dit « la Russie est une menace pour la France », il faut qu'il m'explique.
Ce qu'on fait pour s'en prémunir.
Non, c'est pas ça. C'est que nous sommes une puissance nucléaire. Qui pense que les chars russes vont... J'ai connu ça dans les années 70, quand la gauche devait arriver au pouvoir, on nous expliquait que les chars russes allaient arriver à la Concorde. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qui est posé.
D'accord.
Il y a bien d'autres moyens d'être menaçants.
Oui, d'accord, mais donc faisons attention.
Et les Russes sont aussi très fiers d'être une puissance militaire.
Allez, Anne Niva, La haine et le déni avec les Ukrainiens et les Russes dans la guerre. Je recommande ce livre extraordinaire de reportage aux éditions Flammarion. Merci à vous d'être venus, chers auditeurs et téléspectateurs de CNews et Europe 1. Dans un instant, Christine Kelly sur CNews pour Face à l'info et Hélène Zélani sur Europe 1. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.